Maintenant, je passe la parole au professeur Luis Antonio Battista de psychologie de l'Université Fluminense. J'aimerais m'excuser, je suis un peu en retard. Je me réjouis beaucoup d'être ici avec vous, retrouver les collègues et aussi remercier cette invitation. J'étais dans un doctorat, et là c'est un peu difficile comme ça d'arriver de Nitoro aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup aimé les contributions de Virginie. Ce sujet, pour commencer, pour faire une conversation de 20 minutes, c'est très difficile. Parce que dans mon cas aussi, c'est un sujet qui exige une réflexion sur corps, quotidien, résistance, qui sont des questions très complexes, délicates, et donc c'est vraiment une exigence artistique dans peu de paroles, vous présenter certaines de mes inquiétudes comme chercheur, et qu'aussi nous pouvions commencer à vraiment avoir une conversation ensuite. Le sujet proposé était corps et micro-résistance. Et j'aimerais avant tout partager un certain malaise que j'ai par rapport à ce mot résistance. Le sujet, bien sûr, est vraiment captivant. C'est une provocation comme chercheur. Je suis d'accord avec le sujet, les micro-résistances du quotidien. Le pourquoi de cette inquiétude avec la parole, le mot résistance. Je travaille avec les élèves de l'Université Fluminense, une question contemporaine qui me donne, me cause malaise et attraction en même temps, qui est la question des politiques de différence ou politiques de tolérance ou politiques identitaires. Ou psychologues, personnes qui travaillent avec le service social, chercheurs, se dirigent à la ville, à l'espace public pour travailler avec les exclus, les SDF, les différents en général. Je pense qu'il y a peu d'espace politique ouvert à une discussion de ce que nous faisons dans cet espace public pour travailler ces différentes différences. Donc c'est une question politique qui se trouve présente dans ma ligne de recherche. Et un autre aspect des politiques de tolérance et autres aussi, qui est la question initiale de la résistance. Donc je vais revenir au sujet de la tribune. Nous parlons de résistance, corps, quotidien. J'aimerais présenter quel est le concept de ville et concept de corps que j'aimerais discuter à propos de ce sujet des résistances et micro-résistances. Ville. Dans les 20 minutes que j'ai, je vous présente une définition d'un poète de Pernambuco, Sebastião Ochoa Leite, qui définit la ville comme une lame froide où nous pouvons couper des suppositions. Donc cette définition comme une lame froide qui va couper les suppositions commodes, et je suis complètement d'accord. Donc la ville, l'espace public n'est pas où je vais emmener mes objectifs, apporter mes désirs, c'est un endroit où je vais être mise en examen tout le temps. C'est cette ville qui m'intéresse. La grande question du fascisme contemporain, inspirée par la contribution de Foucault qui nous parle du fascisme comme moyen de vie, est enlever de la ville sa capacité de produire des paradoxes. Donc cette capacité de déparadoxer la ville, d'enlever cette étrangeté, c'est ce qui m'intéresse. C'est de cette ville que je veux parler, c'est cette ville qui m'intéresse. Ce n'est pas la ville comme scénario des actions sociales ou du sujet. L'autre question est le corps. Quel corps m'intéresse pour comprendre les micro-résistances? Il y a une phrase d'un penseur allemand, Walter Benjamin, qui parlait que la contribution du cinéma russe était pour la première fois de montrer dans le visage d'une femme la présence de la ville. Et Benjamin nous dit que les cinéastes russes, les directeurs de cinéma, vont montrer dans le visage féminin l'espace appelé ville. Certainement, il va dans la direction contraire des penseurs de son époque qui vont voir le visage humain comme expression de l'âme, de la culture ou d'une personnalité. Il disait que le cinéma montrait dans le visage d'un être humain plusieurs forces et intensités qui dépassaient le plan individuel, le plan personnel ou de la personnalité. Donc ce corps étant un réservoir de multiples intensités, le corps étant non compris comme quelque chose qui va agir dans la ville, mais apporter la polyphonie, polysémie de la ville, c'est ce qui m'intéresse. Non, un corps individuel ou dématérialisé. En partant de cette idée, suivant la méthodologie de celui qui a étudié les villes et le quotidien, je vais vous présenter une scène urbaine de Rio de Janeiro, ma ville, où je peux vous présenter ce que je désire, enfin, ce que j'appelle micro-résistance. Certainement, cette scène urbaine n'a aucun objectif de vous montrer un fait de journal, des médias, ou dénoncer quelque chose. J'emploie le quotidien comme un instrument pour interpeller les catégories. Le quotidien comme instrument pour interpeller certains concepts cristallisés. Donc, comme je vois la ville comme une lame, je veux que le quotidien soit compris comme une lame. J'ai été invitée par une amie pour recevoir un professeur hollandais qui était ici à Rio et m'a demandé de le recevoir, d'être son hôte. Et nous sommes allés au centre culturel Banco do Brasil pour aller voir une pièce de théâtre. C'était il y a à peu près 8 ans. Je ne sais pas, je m'en souviens, 2000 et... je sais pas, 93, et puis ensuite nous allons prendre le métro uruguayen et nous avons passé par Rio Branco avec Presidente Vargas, les deux avenues qui se croisent, et nous avons vu sur la chaussée une image très forte. Il y avait à peu près 100 enfants qui étaient tous avec des journaux, ils étaient couverts par des journaux. C'était à peu près 10 heures du soir. Et c'est la première fois qu'il venait à Rio de Janeiro. Et quand nous avons observé cette scène, ces 100 enfants, et c'était hiver à Rio de Janeiro, il faisait assez froid, c'était vraiment, enfin, ça nous a causé un impact parce qu'on voyait ces paquets d'enfants, enfin, d'êtres humains sur la chaussée de Getúlio Vargas. Il m'a demandé, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que cette masse amorphe humaine enveloppée dans ces journaux, dans la principale voie de la ville? Et là, j'ai eu honte. Je ne savais très bien que répondre. J'ai expliqué que c'était des enfants pauvres, sans logis, sans domicile. Et là, j'ai expliqué, enfin, de façon un peu idiote, ce que c'était. Et j'ai essayé de me justifier, de voir, enfin, cette scène tellement marquante, enfin, presque 100 garçons. Et puis, nous nous sommes rapprochés et l'image a pris une autre forme. Jusqu'à ce que il a décidé de s'arrêter. C'était un professeur de sociologie. Et il s'est rendu compte qu'il avait des enfants qui avaient des couvertures, que sur leur talon il y avait une corde, il y avait un ruban qui se trouvait lié autour de leur talon, sur leur cheville, pardon. Et non, enfin, c'était une espèce d'une ficelle autour de leur ficelle, parce qu'à la fil de nylon, on ne verrait pas le soir. C'était une ficelle sur leur cheville. Et là, je ne savais que répondre, et on a vu, c'était le soir, on a vu leur corps nocturne, et nous avons vu le corps de la misère, de l'exclusion, de la violence de Rio de Janeiro, qui est une chose le soir, bien sûr. Et j'aimerais expliquer pourquoi les corps nocturnes, parce que Maurice Blanchot, nous pouvons comprendre le soir comme quelque chose qui s'oppose au jour, quelque chose qui s'oppose à la lumière comme libération, le noir comme ténèbres. deux moments d'un jour qui s'antagonisent, qui s'opposent. Mais ce même auteur nous parle d'une seconde nuit, d'un second soir qui ne s'oppose pas au jour, mais qui n'aurait rien qui puisse s'opposer. Un soir où l'on entre et où l'on ne revient pas de même, comme étant le même. Ou un soir où on n'arrive pas à avoir de définition claire, nous ne savons pas qui nous sommes et qui nous serons. Le soir d'un très grand malaise, où nous n'aurons plus le même corps, la même âme, le même visage, après y avoir pénétré. Donc le soir de l'extérieur, de l'externalité. Donc revenons à cette scène de la rue. Puis ensuite, en parlant avec une amie à moi, qui travaille justement avec des enfants sans logis, j'ai compris que ces rubans étaient leur façon de se communiquer sur la police. En général, la police prend un de ces garçons pour les tuer, enfin pour les exterminer. Et donc c'est une façon de se protéger, parce que si un d'eux se lève, parce que quelquefois ils sont morts avec des revolvers et des silencieux, donc ils ne savent même pas s'ils ont été morts. Donc ils emploient cette ficelle pour... enfin, sentir le corps l'un des autres. Bien sûr, toute cette histoire de ficelle va contre cette analyse sociologique et cette question de l'exclu des enfants, SDF. Ces questions ont été mises... cette question de la ficelle, disons, n'achevait pas le sens, parce que cette seconde nuit de Blanchot, rien ne peut se conclure. C'est une nuit où le contact avec l'autre, on n'est plus l'autre et on devient l'autre. Donc c'est un endroit où on perd n'importe quel... on perd le moi et le non-moi. Donc cette ficelle nous renvoie à penser qu'est-ce que nous faisons avec nos vies. Qu'est-ce que nous faisons avec nos désirs, nos rêves? Cette ficelle des garçons dépassait d'une certaine façon une question identitaire à eux, et dépassait une question de groupe spécifique de ces segments, et contribuait à apporter des questions à ceux qui les observaient. C'est comme si un premier regard sur ces enfants, c'était le soir, c'était la nuit des mystères, de la terreur, des fantômes. La seconde nuit, c'est quand nous ne voyons plus ces enfants de la même façon, ni nous ne voyons plus de la même façon. Nous sommes interpellés et mis en question par ces enfants. J'appelle cela cette seconde nuit de Blanchot. Bon, j'ai encore 10 minutes. Et dans le texte que vous avez reçu, corps nocturne dans les villes siégées. Les corps nocturnes qui m'intéressent sont ces corps nocturnes de cette seconde nuit, bien sûr, et de la première aussi comme point de départ, mais surtout de la seconde nuit comme objet d'analyse. Quelle est cette ville siégée à laquelle je fais référence? Ce n'est pas la ville qu'on voit dans les télévisions, ni par les médias européens, ou par les soucis des Brésiliens, des Européens, qu'étant une ville de violence, de misère, de crime ou de la terreur. Ce n'est pas cette ville à laquelle je m'occupe. Ce n'est pas une ville siégée par la peur. Ceci ne m'intéresse point. Une des caractéristiques inspirée aussi par Michel Foucault des façons de vivre fascistes serait, disons, être fatigué, la fatigue. Cette façon de vivre fasciste va nous apporter cette sensation de fatigue, d'être éreinté, de que rien ne peut être de façon différente. C'est l'essence de la pensée fasciste, une certaine clôture de possibilité de dépasser les questions que nous vivons au présent. Et cette sensation que nous n'avons plus de temps. Et qu'ingénument, nous disons que la ville, que la société est complexe, que nous n'avons plus le temps. Et cette absence d'air, cette fatigue, cette sensation de que nous n'avons plus le temps de penser, ceci n'est ni psychologique, ni sociologique, ni culturel, mais c'est un effet politique d'un moyen de vie fasciste. Donc cette ville siégée est siégée par la fatigue, par le manque d'oxygène. Et c'est justement ce que je veux transmettre et qui m'effraie beaucoup plus que les tirs, par exemple. La possibilité qu'intellectuels et non-intellectuels n'arrivent plus à voir dans le contemporain des possibilités, des puissances d'intensité qui annoncent que la vie ou le monde pourrait être différent. C'est le quotidien qui m'intéresse. Et c'est le jour que j'ai vu ces enfants qui sont traités comme des tripes. Non, des choses qui sont mauvaises, enfin, des viscères des animaux, ou même pire par certains intellectuels comme des incapables, vus comme des faibles, comme des impuissants, comme non-citoyens, et ce qui est aussi violent que s'ils étaient traités comme des tripes, comme des viscères. Quand je vois ces corps nocturnes comme des faibles corps, je n'ai pas de possibilité éthique d'annoncer les pratiques. Donc, si je boucle un peu cette question, la ficelle sur leurs jambes était la possibilité de nous montrer une affirmation du concept d'éthique.
La première fois, la vision que j'ai eu de ces enfants avec le professeur Landa, on a commencé à se dire, mais c'est absurde, on ne devrait pas faire ça, etc. Nous sommes entrés dans le niveau des prescriptions d'une certaine morale, d'une certaine préoccupation morale. Et dans la mesure où l'on voit dans ces corps la possibilité d'une confrontation ou d'une échappée de cette logique de la faiblesse, leur vie, c'est la vie de tous. Et la grande question dans le monde contemporain, le grand problème dans cette incursion des intellectuels dans le monde des différentes, c'est que ces différences n'arrivent pas à se rendre dans la vie des intellectuels, la vie des drogués, des enfants des rues, la vie de ces personnes n'arrive pas à être accommodée. L'expérience avec le radical dans la vie n'arrive pas à perpasser ce qu'on n'arrive pas à entrer dans ce corps plus pensé. Alors ces enfants n'arrivent pas à être vus ni comme des victimes, ni comme des héros, mais comme étant innommables, non identifiables, comme étant des formes de vue, de vie, et non pas comme des identités séparées. J'ai déjà fini là? J'ai encore quelques minutes? Comment ça va? 5 minutes encore? Waouh! Je parle très vite. Merci. Un petit peu plus lent, c'est radieux. Est-ce que c'est clair? Avez-vous des doutes, des questions à poser?